dans notre parcours. Alors aujourd'hui, bien, en gros, notre rencontre est intitulée « La doctrine de Saint Thomas ». Mais vous voyez bien où ça se situe, c'est ça qui est important. On a d'abord vu qu'il y a un acte, qui est de même d'offrir. On offre nous-mêmes le Christ, et du coup, on est aussi offert par lui. Ça, c'est en mémoire de sa mort et de sa résurrection. Nous souvenant de sa mort et de sa résurrection, nous t'offrons ce pain et ce vin, et nous te rendons grâce, car tu nous as donné de servir en ta présence. Voilà. Mais alors, avant cela, il y avait cette prière à l'Esprit Saint, qu'on appelle l'épiclèse, et où on demande, eh bien, au Père, parce que dans l'Eucharistie, c'est toujours au Père qu'on s'adresse, et on demande au Père qu'il envoie son Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. Voilà, avant le récit de l'institution. Et immédiatement après avoir fait mémoire, comme ça, et d'avoir offert le corps et le sang du Christ, mais bien la deuxième épiclèse, deuxième invocation à l'Esprit, et qui est précisément, eh bien, que l'Esprit Saint fasse de nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Vous voyez, au point de départ, eh bien, transformation du pain et du vin pour qu'il devienne le corps du Christ, et au terme, eh bien, que nous-mêmes, nous devenions un seul corps et un seul esprit dans le Christ. En se disant ceci, que la première invocation, pour ce qu'on appelle la présence réelle, elle est elle-même, elle est en vue de la seconde, c'est-à-dire en vue de la construction du corps du Christ que nous sommes. Autrement dit, on pourrait dire ceci, ce qui est premier, dans l'intention, c'est tout de même l'Église, c'est ce que nous sommes. Mais au niveau de l'exécution, ben, ça vient dans un deuxième temps, il faut d'abord qu'il y ait le pain et le vin soient devenus le corps et le sang du Christ. Autrement dit, on ne peut pas, on doit distinguer, mais on ne peut pas dissocier le corps du Christ de cet autre corps du Christ qu'est l'Église et que nous sommes. Voilà. Donc, voilà. À la fois dernière, alors on a trois séances là-dessus. On a eu la fois dernière, on a vu d'abord Ambroise et après ça Augustin, peut-être même Augustin, à notre surprise, parce que on passe le corps du Christ, on n'est pas là à penser, eh bien, devenez ce que vous êtes. Voilà. Augustin nous dit, ben voilà, il explique, si vous voulez comprendre, mais ce que vous pouvez comprendre, c'est que vous êtes le corps du Christ. Voilà. Il passe immédiatement, peut-on dire, comme d'un seul coup d'aile, du corps qui est sur l'autel, eh bien, à la communauté que le corps du Christ rassemble et que nous sommes et qu'on doit devenir, devenez ce que vous recevez. Voilà. Et par ailleurs, on a vu alors, avant ça, avec Ambroise, bon, Ambroise appuie davantage sur les paroles de la consécration, pour dire enfin qu'il se passe quelque chose qui est plus que seulement de l'ordre de la création. Et alors, en lien avec le corps du Christ, mais le corps du Christ, bien entendu, on nous dit, bah, je ne peux pas vérifier moi-même, que Ambroise serait le plus orienté, peut-on dire, et de père, eh bien, de l'Église latine. En tout cas, pour lui, il pense, quand il pense le corps du Christ né de la Vierge Marie, celui que nous recevons, ben, il pense le corps transfiguré du Christ, glorieux du Christ, et qui transforme le monde. Bon, peu importe. Retenons, en tout cas, on peut retenir ceci. Hein, déjà, avec Ambroise, avec Augustin, hein, eh bien, que le corps du Christ, d'une part, bien, c'est le corps qui est né de la Vierge Marie, enfin, même si c'est dit qu'il est là sous la forme d'une figure sur l'autel. Voilà. Et alors avec Augustin, eh bien, que le corps du Christ, Augustin dira lui-même qu'il vient hein, de la Vierge Marie, eh bien, c'est en même temps nous, hein, tels que nous sommes. Alors aujourd'hui, hein, je voudrais aborder avec vous tout simplement, hein, d'abord c'est une matière, je crois, qui est belle, parce qu'autrement on n'en parlerait pas, qui est sûrement, vous allez peut-être trouver, hein, que c'est en dehors de vos préoccupations immédiates, dans un vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Hein. Mais alors, il est bon tout de même d'avoir cela en tête. Hein. Autrement dit, on est devant un mystère. Hein. Donc, je ne vous l'expliquerai pas ce soir. Hein. C'est un mystère, hein, qui est le mystère, on peut dire, de la présence du Christ sur l'autel. Hein, un mystère au sens strict. Voilà. Mais en même temps, comme dit saint Thomas, c'est vrai que c'est un mystère, mais tout de même, eh bien, ne serait-ce que par rapport aux gens de l'extérieur, bon, on doit être capable d'en rendre compte, hein, dans la mesure eh bien, de nos capacité. Ce mystère est extrêmement important parce que ça revient à dire ceci, voyez-vous, hein, c'est que, eh bien, le Christ est là, non seulement dans l'univers, mais il est là dans l'hostie. Nous n'adorons pas, hein, du pain et du vin, hein, quelle que soit tout d'un coup la signification ou la portée qui peut leur être donnée, ce que nous adorons, c'est le corps et le sang du Christ. Hein. Autrement dit, et là c'est la difficulté, même grande difficulté, je crois, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. On le voit dans tous les domaines, c'est la même chose. Hein. On voit, hein, comment les choses, bon, comment ça fonctionne, comment ça nous sert, comment, hein, mais en même temps, ce qu'on pourrait dire, là, en soi, hein, ce qu'elles sont en elles-mêmes. C'est déjà vrai, voyez-vous, vous le voyez, bon, prenons tout simplement au niveau de la société, au niveau de l'homme, hein, hein, qu'est-ce que l'homme en lui-même, et non pas, eh bien, pour ce qu'on peut en faire, hein, hein, la manière dont on doit gérer les relations, hein, facile, hein, hein, et pourtant, on ose croire, eh bien, que l'homme, hein, eh bien, il vaut par lui-même. Et donc, ici, on ne pourrait pas penser à l'adoration eucharistique comme telle, si on était incapable de voir, eh bien, qu'est-ce qui se passe, comment, hein, le Christ est là, présent dans l'Eucharistie. Le problème, bon, alors je vous ai passé une feuille, hein, parce que des fois, c'est encore, on ne le résoudra pas ce soir, le problème, c'est évident. Hein. Mais il est intéressant de voir comment la question s'est posée, hein, parce que c'est encore à partir de là, en voyant comment la question s'est posée, ben, on peut se dire, mais voilà, on va écouter saint Thomas, ce n'est pas le dernier mot sur la doctrine, mais on n'en a pas trouvé encore de meilleur. Hein. On dirait dans l'Église que c'est la manière aptissimée, la plus apte, hein, à en rendre compte. Ce qui n'exclut pas d'autres manières de faire. Non. Alors, donc, on voit ça aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on prendra la question de la réforme, hein, qui est plus complexe peut-être qu'on le pense, hein, et pourtant, en même temps, qui nous divise sur la question de, vraiment, du corps et du sang du Christ dans le sacrement. Et après ça, ben, selon le temps dont on disposera, on voit bien, dans les 30, 40 dernières années, hein, Il y a eu beaucoup de questions. Hein, comment exprimer, comment se dire à soi-même, donc, la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. Bon, donc on prendra cela, et ce sera donc, on aura fait notre parcours comme ça pour ce qui regarde, eh bien, la présence réelle, peut-on, ou le sacrement, comme on dit, hein, comme on avait vu, l'autre dimension qui était le sacrifice. Ce sont les deux grands pôles de l'Eucharistie. L'Eucharistie, elle est sacrifice, il y a un acte, et en même temps, elle est sacrement, elle est même le sacrement par excellence, parce qu'elle ne nous fait pas seulement profiter du Christ, mais comme le dit la théologie, comme le dit saint Thomas lui-même, elle contient ce qu'elle donne, ce qui n'est pas le cas du baptême, ou des autres sacrements. Donc, c'est pour ça qu'on dit le très saint sacrement. Alors, donc, voilà, donc, ce qui se passe, c'est que, il y a eu des controverses. Bien entendu, je vais vous parler de Pascal Radbert, Ratram, vous en entendrez probablement jamais parler, pour le reste de votre vie. Je sais bien que dans mes premiers cours, ce que j'ai suivi sur l'Eucharistie, ces noms étaient plutôt pour moi, mystérieuse, sans trop savoir eh bien, ce qu'il y avait derrière. Mais enfin, tout simplement, comme cela, à partir de ces deux moines, donc, parce que ce sont les premiers, c'est bon de se dire ça, ce sont les premiers, on pourrait dire, traités sur l'Eucharistie. Voyez bien, on a vu Augustin fait des homélies, des catéchèses. Ce que vous voyez là, il explique les gestes du prêtre. Cyril de Jérusalem, c'est la même chose. Ambroise, c'est la même chose. Alors là, pour la première fois, tout d'un coup, on essaie d'expliquer les choses. Alors, ce sont deux moines dans le même monastère qui ont la foi catholique. Ils ne se sont pas agrippés l'un à l'autre. Dans un monastère qu'on appelle le monastère Corbie, qui est dans la région de Reims. Et voilà que le roi Charles le Chauve leur demande qu'est-ce qu'il faut penser du corps du Christ dans le Saint-Sacrement. Alors, vous avez deux lignes. En même temps, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes parce qu'ils sont, tous les deux. Mais enfin, c'est deux accents différents. Le Pascal Radbert, c'est bon de le savoir, j'ai appris ça la semaine dernière en regardant le prion en église, que Pascal Radbert est un saint, il est canonisé, je ne savais pas ça. C'était dans l'ordre des saints, Et alors, donc, il y a Pascal Radbert, donc c'est bon, il est saint, c'est un bon, ça va le retenir. Et alors, Ratram, qui n'est pas méchant, mais enfin, qui ne sera pas canonisé, lui, Et alors, on voit alors ce qui se passe, c'est que l'un met l'accent. Toute la grande discussion sera celle-ci. Est-ce que le Christ, le corps du Christ, dans l'Eucharistie, est-ce qu'il est là, j'emploie les mots en latin, est-ce qu'il a in veritate ou bien in figura? En vérité ou bien en figure? Est-ce qu'il y a une différence, autrement dit, entre le corps naturel de la Vierge, qui est né de la Vierge Marie, qui a vécu en Palestine, et alors, ce qui est sur l'autel, qui de fait, de toute façon, est sacramentel. Il n'y a rien à faire. Sacrement veut aussi renvoyer au mot figure. Donc, on se trouve alors devant donc, deux manières. Et donc, de discuter, de rédiger la chose. Et chacun a écrit, comme je vous disais, un traité dédicacé à Charles Chauve, qui était successeur de Charlemagne. C'est beau, les empereurs s'intéressaient à ce moment-là. Et alors, l'un, ils sont du même moment, parce que Pascal Radbert est mort en 861, et Ratram, 4 ans ou 5 ans donc plus tard. Alors, comme dit un spécialiste de la liturgie, l'œuvre de Radbert, Pascal Radbert, sera par la suite une référence en doctrine eucharistique. Autrement dit, l'Église va se reconnaître en lui. Il est la clé de voûte pour comprendre le développement de la théologie eucharistique au Moyen Âge. Bon, enfin, il reste que les deux figures sont là et qu'elles sont donc emblématiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, voilà, ce qui est bon avant ça, tellement bon, parce que, voyez-vous, vous avez, bon, Augustin, mais alors, après ça, vous aurez donc Isidore de Séville, qui va écrire des étymologies. Il est peut-être bon de se dire, je crois, que notre Isidore de Séville est le patron des bases de données maintenant, informatiques. Hein? Voilà. Il a constitué la première base de données, hein, des étymologies. Voilà. Et là-dedans, tout d'un coup, il y en a eu une définition du mot sacrement. Hein? Intéressant parce que vous allez voir. Hein? Alors, je lis. Il y a sacrement en une célébration lorsque la réalité est ainsi posée qu'elle est comprise comme signifiant ce qui doit être accepté saintement. Donc, disons, c'est institué, c'est célébré en signifiant eh bien, ce qui doit être accepté saintement. Ben, d'où l'appellation de ce sacrement. Parce que, voilà, parce que sous le voile des choses visibles, il y a un voile, des choses visibles. La vertu divine opère en secret le salut. Hein? Les sacrements se définissant ainsi à partir de leur vertu secrète et sacrée. Ben, vous ne voyez peut-être pas trop ce que ça signifie, mais ça revient à dire ceci, voyez-vous, avec Augustin, hein, nous avions, ben voilà, les sacrements ben, sont des signes, hein? Ils parlent. Hein? Autrement dit, ce qu'on est comme chrétien, mais c'est à la manière dont on fait, avec de l'eau et de la farine, on fait un sacrement qui est le baptême, à la mesure dont, avec les exorcismes tout de même, hein, ou les Saint-Esprit Saint qui nous réchauffe, hein, ou alors, ben voilà, nous sommes le corps du Christ, c'est-à-dire, ben voilà, il y a multiples pains, hein, multiples grains, on est un. Donc, autrement dit, avec Augustin, un sacrement, ça parle, ça signifie. Alors qu'ici, on voit bien le sacrement comme tel, il vient se mettre comme un voile, hein, pour cacher une réalité secrète. Bon. Et alors, qui opère en nous de façon secrète, et qui est le corps du Christ. Donc, retenons cela, un sacrement est en même temps donc, un voile. J'en viens maintenant à notre cher Pascal Radbert. On voit tout l'accent chez lui sera mis sur ce qu'il appelle la vérité du sacrement. Je lis un texte ici qui n'est pas de lui, mais qui résume assez bien, vous allez voir ensuite. Hein. C'est au 9e siècle. Ma mère, quand j'étais jeune, finalement, me mettait les mêmes représentations dans la tête. Il ne faut pas mordre Jésus. Il ne faut pas. Voilà. Non, un réalisme. Bon, et donc, ça fait, je dirais, ça fait. On dit comme si c'était exactement le corps du Christ. Je dis la conception de Pascal, qui à beaucoup d'égards est vraiment innovatrice, se fonde sur l'affirmation que le corps du Christ présent dans l'Eucharistie est le corps même né de Marie. Ce qui est présent dans l'Eucharistie, c'est la chair physique du Christ qui vient comme voilée sous les apparences du pain et du vin. Pourquoi elle est voilée sous les apparences du pain et du vin, de façon à ce que le fidèle n'éprouve pas l'horreur de s'en repaître. C'est évident. Voilà. Donc, les apparences du pain et du vin sont une pure et simple enveloppe pour tromper les sens. Parce que les sens, comme tels, ils devraient voir eh bien, le corps physique du Christ. Je continue. S'il était... Alors, il faut bien se dire ceci. Hein. L'Église, là où on mettait en question la présence réelle, a toujours été à 100% derrière Pascal Adbert. Mieux vaut aller dans ce sens que dans une notion qui serait un peu symbolisante, peut-on dire. Hein? Autrement dit, il y a un réalisme. On va voir que cet homme corrige l'affaire, mais enfin, c'est bon de voir. Hein? Voilà. Je continue. S'il était possible de retirer ce voile, la chair et le sang du Christ apparaîtraient dans leur consistance naturelle. Non seulement c'est possible, mais cela arrive dans les miracles eucharistiques. Et ça, les miracles eucharistiques, surtout au tournant à l'entrée, si on peut dire, dans le deuxième millénaire, eh bien, ça parlait hein, de voir tout d'un coup un petit agneau dans une hostie, ou encore une hostie donc, qui coule du sang, hein. Eh bien, ça montrait, c'est un signe tout de même de ce que vraiment ben, le Christ est là, hein, caché. Donc, des miracles eucharistiques. Dans la communion, la nature humano-divine du Christ est reçue par le fidèle et par le métabolisme naturel de la digestion. Elle est assimilée et se transforme en chair et sang du fidèle. Jusqu'à certains points, c'est vrai, hein? Le pain, le vin qui est là, tout de même, nous l'assimilons. Hein? On n'en fait pas un repas complet, hein? Mais il reste que c'est le même processus que celui du métabolisme hein? Qu'il y a pour assimiler quoi que ce soit. Mais alors ici, vous le voyez, hein? Par le métabolisme naturel de la digestion, il est assimilé et se transforme dans la chair du fidèle. Pascal explique que c'est à cause de ce processus que la mendication de l'Eucharistie devient salvifique pour l'homme. Ce processus de mendication et d'assimilation. De cette manière, l'existence divino-humanine du Christ s'unit naturellement, hein, voilà, c'est un mot qui revient souvent chez lui, au corps et au sang du Fils qui reçoit l'Eucharistie. Bon, ce que je veux dire par là, ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'il y a un élément de continuité, peut-on dire, entre hein, le corps du Christ, hein, qui est né de la Vierge Marie, hein, qui est pendu sur le bois de la croix, et bien, et le corps, et bien, et le sang du Christ tel que nous le recevons dans l'Eucharistie. Et cela se produit par une consécration mystérieuse, peut-on dire, eh bien, qui est la consécration donc, de l'Eucharistie. Alors, il dira, parce que c'est beau en même temps, vous le voyez des fois, hein, la théologie a été là, hein, penser les paroles du Christ, souvent laisser de côté eh bien, la place de l'Esprit-Saint. On voit bien, d'après l'épithèse que j'ai lue, que même l'Esprit-Saint a quelque chose à voir hein, dans la transformation des dons. Hein? Alors il dit, voilà, lui-même, parce qu'il n'est pas permis de dévorer avec les dents, hein? Jésus, le Christ a voulu que ce pain et ce vin, par la création puissante de l'Esprit, donc il y a un acte de création de la part de l'Esprit, et bien que ça devienne mystérieusement son corps et son sang, et que par cette création, il soit chaque jour immolé pour la vie du monde. Retenons, parce que j'y reviendrai après. Hein? Hein? On a parlé sacrifice. Hein? Vous voyez la phrase ici. Hein? Par cette création, hein, ben, qu'il devienne le corps et le sang du Christ et qu'ici, il soit immolé pour la vie du monde. On voit bien, c'est en vue du sacrifice, de l'immolation. J'avais lu comme ça, enfin, il y a nommé Yaroslav Pelikan qui écrit toute une histoire, enfin, qui est un protestant, okay. Voilà. Et alors, toute une histoire, si on peut dire, du dogme. Alors, il traite du Moyen-Âge. Hein. À un moment donné, vous allez voir, à un moment donné, il est arrivé à la conclusion hein, que si, hein, malgré beaucoup de tendances à atténuer la dimension du réalisme eucharistique, hein, à penser davantage l'eucharistique comme dans sa signification, on va le voir avec, et bien que si, malgré tout, hein, la raison pour laquelle l'Église a tenu à la présence réelle, bah, on ne verra pas tout à fait comme Pascal Radbem, mais enfin dans ce style-là, c'était que bon, l'Eucharistie est un sacrifice. Si le sacrifice est réel, ça ne peut pas être uniquement un franc symbolique. On offre quelque chose. Et donc, de ce point de vue-là, le réalisme eucharistique va de pair, hein, avec eh bien, le fait que l'Eucharistie est voilà. On a suffisamment pour voir à peu près de quoi il s'agit. Alors arrive alors à ce moment-là, parce qu'il faut bien avancer pour tout terminer là, rattrape. Hein? Bon. Alors, même monastère, enfin, Charles Chauve demande eh bien qu'est-ce qu'il en est. Alors, ils ont la même foi hein, dans la présence eucharistique. Hein? Bon, il en arrive tout de même à la conclusion, lui, que malgré tout, hein, il y a une différence entre le sacrement qui est in figura, hein, et alors, eh bien, le corps et le sang du Christ. Ils diffèrent entre eux et ne sont pas, par conséquence, le même corps. Voilà. Bien entendu, on voit bien ici, derrière l'un et l'autre, hein, on peut dire, voilà, il y avait derrière Rattram, celui dont je viens de parler ici, ben, il y a l'ombre, on peut dire, hein, d'Augustin, alors que du côté de Radbert, ben, il y avait, on peut dire, il y a la foulée, peut-on dire, eh bien, de Ambroise. Hein. Autrement dit, donc, l'Eucharistie, de ce point de vue-là, elle est figure, parce qu'elle est mystère. Il faut bien se dire que à ce moment-là, corpus mysticum, corps mystique, nous, enfin, si vous avez déjà fait un peu de culture théologique, lorsqu'on pense corps mystique, on pense à l'Église, nous. Alors que, à ce moment-là, corps mystique, c'était le corps sur l'autel, puisqu'au fond, c'est par une prière mystique, la prière de l'Église, eh bien, qu'on avait le corps du Christ sur l'autel. Enfin, il va dire ceci, hein, malgré tout, eh bien, il y a une différence qui n'est pas petite entre l'un et l'autre, puisqu'au fond, eh bien, ce que nous avons sur l'autel, eh bien, est différent du corps du corps qui est né de la Vierge Marie. On voit, c'était la première discussion en fait, qui porte sur l'Eucharistie elle-même. Et comme je vous le disais, ça marque, en gros, hein, disait Yaroslav Pelikan, en gros, ben, par rapport à cette espèce de réalisme un peu terre à terre, un peu crasse, peut-on dire, de Radbert, et tout de suite, bah, les théologiens le moindrement un peu raffinés hein, pensaient plutôt du côté hein, d'Augustin, et surtout, malgré tout, il y a une différence entre les deux. Bon. Et donc, ce qui a joué, comme je disais, malgré tout, au sens de donner à Radbert, je veux dire, c'est donc ce que j'ai dit, tu viens de dire, bon, on pourrait dire, c'est la lex orandi, la loi de la prière, hein, est encore, eh bien, ce qui détermine, hein, la loi, au moins, de la théologie, sinon, eh bien, de la foi. Ce que l'Église fait, dit comme tel, eh bien, une vérité, porte une vérité, hein. Et ici, eh bien, l'Église, alors, jusqu'à Luther, on l'a vu, hein, aura une conscience ferme de l'Eucharistie, d'ailleurs les prières eucharistiques le disent, hein, elle est un acte d'oblation, d'offrande, de sacrifice, et que cela est réel. Et si c'est vrai, donc, eh bien, penser la présence du Christ dans le sacrement, il faut la penser de façon réelle. Donc, voilà le premier point intéressant à retenir, hein, parce que ça montre tout de même dans le sacrement qu'il y a des liens. Et le deuxième, bien entendu, c'est ce qu'on appelle parfois le sensus fidelium, hein, c'est-à-dire le sens commun des fidèles. Hein. Or, une des manifestations les plus claires, d'abord, de ce sens des communs des fidèles, c'est tout de même d'abord... on voit bien que le monde du Moyen-Âge, ben vous le sentez vous-même, même si vous n'avez pas toujours à vous le dire, hein, c'est différent hein, du monde des pères de l'Église. Hein. Il y a comme, je dirais, avec le Moyen-Âge, vous le voyez bien avec François d'Assise, on le voit avec d'autres, bien, il y a tout de même une attention, une sensibilité qui va marquer ensuite les siècles suivants, une sensibilité à l'humanité du Christ, hein, au Christ hein, tel qu'il est là. D'ailleurs, pour ça qu'on a, on a des crucifix, c'est pour ça eh bien, que, eh bien, on pense la divinité, mais on pense aussi l'humanité. Et donc, au niveau donc, de, avec un côté, je veux dire, personnel, individuel. Donc, on veut voir l'hostie, et surtout alors, voilà, il y a un grand désir de voir l'hostie de ses propres yeux, et alors, c'est à ce moment-là hein, qu'eh bien, vient la fête Dieu, hein, la procession de la fête Dieu, donc, qui a commencé à Liège. Hein, hein. On me disait, hein, quelques jours, que de fait, je pense, Monsieur Derville, l'année prochaine, pense bah, faire une grande procession à Liège, parce que ce sera les 800 ans hein, de la première procession donc, du Saint-Sacrement, et qui s'est répandue ensuite eh bien, à l'Église universelle. Donc, vous le voyez, il y avait un voir, on ne communique pas beaucoup, mais on veut voir, on veut voir les miracles eucharistiques. Et alors, eh bien, il y a cette dévotion, cette procession donc, au Saint-Sacrement, et qui, de fait, eh bien, va perdurer à travers les siècles. Et je ne sais pas par quelle logique. Eh bien, on l'avait abandonné, et tout d'un coup, on sent multiples endroits qu'elle a un geste et encore du sens, hein, hein, comme affirmation donc, de la foi chrétienne. Donc, voilà comment ça se présente comme arrière-fond. Alors, vous aurez à ce moment-là. Eh bien, un autre nom que je vous cite, dont vous n'entendrez probablement jamais parler par la suite, et qui est tout de même eh bien, un écolate ou un théologien, si on peut dire, de l'école cathédrale de Tours, et qui s'appelle Béranger de Tours. Donc, il est mort en 1088. Alors, on voit bien, on pouvait avoir un réel, enfin, avec Radbert, quelque chose de réaliste, physiciste, avec Rattram, bon, malgré tout, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, voilà. Mais alors, on arrive avec Béranger de Tours, là, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler, donc, dire, un symbolisme vide. Hein. Autrement dit, on n'est plus là à essayer de concilier figure hein, et réalité et vérité, eh bien, c'est l'un ou l'autre, hein. Et le choix est fait, que voulez-vous, le Christ hein, de gloire, il est au ciel, quoi. Hein. Et donc, eh bien, ce que nous avons, c'est très important, hein. Donc, il est là, il est signifié, mais ce qui nous est donné, c'est tout de même du pain. Hein, hein. Il y a même, certains se demandent, c'est de fait, derrière Béranger de Tours, il n'y a pas une certaine mentalité, comment dire, afin de... Pensez non pas à transsubstantiation, comme on va voir, mais impanation. Hein? Le pain est là, et d'une façon ou d'une autre, eh bien, le Christ vient dessus. Hein? Hein? Autrement dit, on a connu le Christ selon la chair au temps des apôtres. Évidemment, il n'en va plus ainsi de nos jours. Hein? Parce qu'autrement, eh bien, ce serait soumettre le Christ au temps du changement. Non. Il ne peut pas être au temps du changement, il est au ciel. Ce serait supposer que celui-ci s'incarne à nouveau, alors que exalté, donc son corps n'est plus ni temporel ni changeant. Voilà. Alors il dit ceci qui tout de même, hein, là on voit que ça pose un problème hein, à se Béranger. Alors, tente d'expliquer la conversion eucharistique en la comparant, là, voilà, hein, à la conversion de saint Paul. Voilà. Il y avait du pain et du vin dans le sacrement, hein, comme de saint Paul de Tars avant qu'il soit changé en Paul apôtre. Comment dire, Paul de Tars, bah, tout de même, c'est un nouvel homme, hein, un autre homme, peut-on dire, hein, que Paul l'apôtre. Enfin, c'est en même temps Paul. Hein. Alors ici, bah, c'est du pain, c'est encore un autre pain, mais, ça, mais la substance, la nature du pain ne changera pas. Une forme donc d'impanation. Et ce qui vient à dire ceci, voyez-vous, c'est qu'il ne peut pas alors y avoir adoration de l'hostie. Hein? Hein? On ne peut pas s'y arrêter comme tel. Hein? Adoration, il faut faire attention, parce qu'après le concile, à un moment donné, il y a eu un côté où on a accusé parfois beaucoup d'être un peu trop chosiste. Hein? Hein? S'arrêter uniquement l'hostie de façon un peu magique. Hein? Il reste que malgré tout, il y a un moment, c'est tout de même le Christ, lui-même, qu'on accueille, et non pas uniquement un signe, si parlant soit-il. Bon. Alors voilà, juste pour vous donner une idée comment est-ce que les choses ont pris du temps, parce que je pars après ça. Donc, on l'a condamné, notre père aussi. Et donc, à un moment donné, il a bien fait, il a dû avaler la couleuvre, hein. On lui a fait faire une confession de foi, hein, vous ne seriez même pas capable de la faire vous-même, je crois. Hein, hein, je lis. Ah, encore. Voilà. La confession de foi. Première qu'il a faite, donc, en 1059, c'était, voilà. Donc, qu'après la consécration, le pain et le vin posés sur l'autel ne sont pas seulement sacrement, non, figure, hein, mais aussi le vrai corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils sont touchés et rompus par les mains du prêtre. Donc, c'est le corps et le sang qui sont touchés et rompus par les mains du prêtre. Et mâchés par les dents des fidèles sensiblement, sensualitaire. Et là, on met le clou, non seulement en sacrement, mais en réalité. Autrement dit, dire in veritate, en vérité, ça revient à dire, parce que, hein, pour bien de l'avouer, il faut passer aussi peut-être par là, hein, hein. Pour voir la réalité. Mais enfin, voilà, première confession, 20 ans après, on lui en fait faire une autre, qui est enfin là où les mots changent, hein, vous le voyez, hein, et où il est dit, voyez-vous, que par la parole, la consécration, eh bien voilà, hein, le pain et le vin sont changés substantiellement, substantialitaire converti, à la chair véritable, propre et sang du Christ. Et qu'après la consécration, ils sont le vrai corps du Christ qui est né de la Vierge Marie. Hein? Hein? Mais, on voit bien, arrive un mot qu'on n'avait pas encore auparavant, hein? C'est qu'au fond, le mot substance qui vient. Hein? Pour le fond, hein? Hein? Ils sont changés, ils sont devenus autre chose. Voilà pour cela, et là j'en arrive parce que ça rapidement, mais avec saint Thomas, hein, c'est un survol, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de voir eh bien les grandes idées, hein, entendre paisiblement quelques idées, hein, la manière dont saint Thomas reprend, hein, la doctrine eucharistique, hein, en se disant que saint Thomas, hein, et celui qui écrit l'office de la fête Dieu, hein, pour l'Église, c'est saint Thomas qui a écrit tout de même le Pange Lingua, le Tantum Ergo que l'on chante. Ça nous vient de saint Thomas. Hein. En le sens, c'est le grand docteur, hein, de l'Eucharistie comme tel. Non. Et alors là, au niveau, mais maintenant, voyez-vous, au niveau de la philosophie. La grande distinction, même si on ne rentre pas dans le détail, et moi-même, je suis incapable d'y entrer. Je ne suis pas un philosophe. Hein. C'est justement la grande distinction qui lui vient d'Aristote, hein, et qui, en même temps, regarde la consistance des choses, parce que le propre, je dirais, d'Aristote, l'apport de Saint-Thomas à la théologie, ça a été bien de prendre en compte, on peut dire, la consistance des choses, la consistance de la création. La création a sa structure en elle-même. Elle ne fait pas uniquement que chanter les louanges de Dieu. Elle a, hein, sa consistance, elle a sa structure. Et donc, une structure aussi ontologique, on va dire, hein, au niveau de l'être. Et la grande distinction, là, elle est, bien entendu, en tout étant, hein, quel qu'il soit, qui n'est pas Dieu, enfin, tout autre créé, hein, il y a, hein, la substance, ce qui est en dessous, et il y a les accidents. Très simple, hein, les accidents, que voulez-vous, c'est la quantité, c'est la qualité, c'est la couleur, enfin, et en même temps, derrière tout cela, eh bien, il y a la substance. Bon, la substance, on ne la touche pas comme telle. On la rejoint, hein, ce qui est le fond d'une personne, le fond de l'être. Bon, je prends le cas du pain parce que c'est intéressant, parce que ça ne marche pas. Hein, parce que de nos jours, avez-vous une substance, c'est une substance chimique. Hein, 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 on ne pas. Et pourtant, il faut bien reconnaître que le pain est plus qu'un agrégat. Puisqu'au fond, il a été fait, il est moulu, il est, hein, cuit. Pour un usage, quoi. Hein, est même fait pour, hein, pour être nourriture, quoi. Mais il reste que malgré tout, vous auriez cherché, vous ne trouveriez pas, vous trouveriez des substances chimiques. Hein. Vous n'avez pas, pour dire, un principe d'unité, d'unité en soi, métaphysique, qui est derrière le pain. Non. Ce qui fait que de nos jours, la notion de substance, pour beaucoup de nos contemporains, semble-t-il, eh bien, est vraiment. Bah, on se met sur un plan scientifique et là, on ne trouve pas de substance. Dommage, on devrait au moins trouver que l'homme, hein, puisqu'au fond, il se définit de par lui-même, de par sa liberté, bah, et répond, est plus qu'un agrégat. Hein. Il y a un tout, hein, qui est plus que les parties, peut-on dire. Voilà, c'est ça qui est derrière l'idée donc, de substance elle-même. Donc, autrement dit, en toute chose, il y a la substance. Et en même temps, eh bien, il y a les accidents. Prenons, on aurait beau connaître quelqu'un, hein, prenons le mot accident, avec tout ce qu'il est lui-même, hein, il reste, on a une certaine connaissance de la personne. On n'épuise jamais, du coup, le mystère d'une personne. Autrement dit, on n'a pas une vision directe, immédiate, hein, de ce qu'on peut mettre sur le mot substance, ou le principe de vie, hein, parce que c'est ça, hein, hein, mystère qu'il y a derrière une personne elle-même. Alors donc, autrement dit, comment est-ce que procède là, il part cette distinction, hein. Et alors, voyez-vous, et en même temps, hein, il part tout simplement aussi, hein, de la lex orandi. Elle nous dit, vous rappelez, il est dit que l'Esprit Saint, hein, fasse de ce pain et de ce vin, eh bien, ou change ce pain et ce vin dans le corps et le sang du Christ. Autrement dit, dans la consécration, il y a une conversion, il y a un changement. Qui était pain, ce qui est vin, devient le corps et le sang du Christ. Donc, il part donc de l'idée précisément d'une conversion. En général, une conversion, pour nous, ben, vous, on dira dans son langage à lui, ben, c'est une conversion formelle. Voilà. Hein. Un sculpteur, hein, de toute façon, ben, il sculpte une statue. Il lui faut bien bout de bois pour le faire. Hein? Hein? Il y a un élément continu sur lequel on travaille, quoi, à laquelle on donne une nouvelle forme, quoi. Hein? Si bien que la statue, ben, c'est pas tout de même le bois qui était là auparavant, et pourtant il y a un élément de continuité, ça passe d'une forme à une autre. Vous voyez ce que je veux dire par là, hein? C'est ça qui se fait au niveau de toute transformation, hein, au niveau de l'univers, au niveau de nos choses, au niveau de relations, et précisément ce qu'on peut appeler, on donne une nouvelle forme, hein, on crée un nouvel objet, on le crée à partir tout de même de matériaux qui est là, hein, qui est disponible. Considéré comme voilà, la matière par rapport à la forme. Donc, ça, c'est une conversion comme telle, puisqu'au fond, une conversion encore plus fondamentalement au niveau de la métaphysique, eh bien, c'est la notion de mouvement, hein, qui fait passer d'un lieu à un autre, encore d'un état à un autre. Donc, il y a cette conversion-là. Alors ici, bien entendu, alors, il s'agira d'une conversion non pas selon la forme, mais selon la substance. Hein? Je lis, je suis le texte. Hein? Autrement dit, il y a une phrase de cet Augustin, parce qu'il part, il raisonne toujours à partir de ce qui est bien obligé de devoir penser. Hein? C'est intéressant. On est donc obligé d'admettre que le corps du Christ ne peut commencer d'exister sous ce sacrement autrement que parce que la substance du pain est convertie en ce corps. Autrement dit, il faut que la substance du pain soit convertie en ce corps. Or, lorsqu'un être est converti en un autre, il ne subsiste plus une fois la conversion accomplie. Et je continue, toujours. On est donc réduit à mettre, voilà, hein, admettre la vérité de ce sacrement, que la substance du pain ne peut subsister après la consécration. En partie, bah, ça revient de ci, il ne peut pas y avoir incarnation. On ne peut pas avoir là à la fois du pain et avoir le corps du Christ. C'est ce que je dis, hein? Puisqu'il doit y avoir, eh bien, passage de l'un à l'autre. Hein? Et donc, par ailleurs, bah, ce passage implique une unité d'action. C'est un même acte par lequel, eh bien, le menuisier transforme, pardon, le maçon matériau en une statue. C'est là, hein, c'est là que se fait une conversion formelle. Eh bien, ici, vous le voyez, ça veut dire ceci. Hein, il n'a pas, ça, on l'a déjà vu, hein, il ne peut pas y avoir, donc, le passage, hein, du pain et du vin, parce que, hein, au corps et au sein de Christ, hein, eh bien, ne peut pas être sous la mode d'une annihilation. Ce ne serait pas gentil de la part de Dieu, puis ce n'est pas selon ses habitudes, eh bien, d'annihiler ce qu'il a fait. Hein? Non, ce n'est pas annihilation. Hein? Et en même temps, de la même façon, ça exclut aussi, eh bien, l'idée de création. Bon, il y a création lorsque Dieu pose quelque chose dans l'existence à partir de rien. Alors, en quoi consiste cette conversion substantielle, hein? Ben, on voit que là, à ce moment-là, eh bien, c'est seulement un acte de puissance de Dieu qui peut faire cela. On est devant une conversion, hein, de notre ordre. Il faut que ce soit Dieu, auteur de toutes choses, hein, qui lui n'est pas limité comme nous le sommes, hein, comme simple créature. Alors, je continue. Aussi, son action atteint-elle toute la profondeur de l'être? Dieu peut donc opérer une conversion de tout l'être, de telle sorte que toute la substance de ceci, donc le pain, se convertisse en la substance de cela. Et ça, c'est une conversion, hein, qui n'est pas du ressort de la création. Autrement dit, là, vous avez, j'ai employé le mot conversion. Alors là, le mot, hein, kabbalistique, mais enfin, qui sera toujours vis-à-vis de laquelle tout le monde a à se référer ou à se demander, c'est le mot transsubstantiation. Hein. C'est le passage d'une substance à une autre. Hein. De la substance du pain, de ce qui est du pain, eh bien, à la substance du corps du Christ. Et cela, eh bien, doit se faire dans une seule et même opération, c'est un même acte, hein, à partir du pain qui est converti en Christ. Autrement dit, le corps du Christ ne se trouve pas affecté arrêté lui-même. Hein. Ben, c'est pas lui qui devient, qui, hein, par une opération locale, hein, qui devient là. C'est de fait, eh bien, c'est le pain lui-même qui se trouve converti à partir donc, dans sa relation donc, au Christ. Ce qui veut dire ceci, voyez-vous, hein, un, retenons cela, il n'y a pas de mouvement local du corps du Christ. Il n'est pas là à partir du ciel pour venir. Tout se fait dans la conversion du pain et du vin dans le corps du Christ. Deuxièmement, en même temps, il n'y a pas non plus production de nouveau corps du Christ. Autrement dit, le corps du Christ n'est pas là à se démultiplier, hein, hein, selon les messes qui sont dites. Hein. Autrement dit, la conversion eucharistique a tout simplement pour effet de changer le pain, parce que c'est sur le pain qu'il joue, ah, mais en le mettant en relation avec le corps préexistant du Christ. Et le corps préexistant du Christ, eh bien, c'est le corps glorieux du Christ. Hein, et c'est celui qui est au ciel. Hein. Autrement dit, le corps du Christ dans l'hostie n'est pas un nouveau corps du Christ, mais c'est le corps même du Christ qui est au ciel. Hein. Il n'y a pas de déplacement local. C'est le corps même du Christ qui est au ciel. Le changement se produit dans le pain, hein, et non pas dans le corps du Christ. Hein. Il n'y a pas de changement au niveau du corps du Christ. Tout se fait dans ce fait que le pain lui-même, eh bien soit transformé, hein, cède la place donc, au corps du Christ. Donc, voilà, autrement dit, tout cela tient à la distinction en substance et accident. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, on voit en tout cas que ça libère un certain imaginaire, hein, hein, qui serait porté, des fois, hein, être là trop, à mettre... Là, au fond, ouais, c'est ceci, c'est qu'il rejoint, au moment, on va le voir ensuite pour la substance, là, il rejoint Radbert sans tout l'imaginaire, hein, qu'il y avait autour, quoi. Parce qu'au fond, bien, c'est... Le corps qui est là, c'est le corps glorieux du Christ, mais c'est aussi eh bien, le corps qui est né de la Vierge Marie. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant? Il y a une conversion, hein? Il y a tout de même, à ce moment-là, il y a une présence du Christ, mais elle est comment? Ah, voilà, elle est sous le mode de la substance, hein? Et non pas des accidents eux-mêmes. Elle l'est de deux façons différentes, vous voyez, c'est bon de se le dire, hein? Parce qu'au fond, eh bien, il y a un peu de réalisme qui fait que, tiens, d'abord, il y a les paroles du Christ. Hein. Le Christ n'a pas dit ceci à ma personne, il a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce qui veut dire que ce qui est sur l'autel, ben voilà, il l'a dit, hein, d'un côté, c'est son sang, puis de l'autre côté, c'est son corps. Autrement dit, en vertu du sacrement, eh bien, c'est le corps, hein, c'est le sang du Christ. Et c'est seulement, on pourrait dire, bon, en lien avec le corps et le sang, hein, théologie dira en concomitance, eh bien qu'il y a à la fois la divinité, hein, et qu'il y a donc l'âme du Christ. Mais enfin, disons ceci, on aurait, une hypothèse, parce qu'on peut s'amuser, hein, on aurait eu l'Eucharistie, donc, mettons le samedi saint, hein, quand le corps du Christ était séparé de l'âme. Bon, on aurait eu la messe, on n'aurait pas eu l'âme, quoi. Hein? On aurait eu le corps et le sang. Vous voyez ce que je veux dire par là, hein? Autrement dit, il faut donner d'abord aux mots leur sens. Hein? C'est d'abord le corps et le sang du Christ, quoi. Hein? Et alors, si ça avait été, le vendredi saint, hein? Lorsqu'ils sont divisés, le corps et le sang, c'est la mort, ben, on n'aurait pas... D'un moment, on a, bien entendu, avec le corps du Christ... Par concomitance aussi, on a son sang, hein, si bien qu'on peut communier sur une seule espèce, hein, c'est un peu à ce moment-là, hein, mais les mots eux-mêmes gardent leur sens, hein, d'après, eh bien, le sacrement lui-même. Alors, une fois cela dit, eh bien voilà. Donc, ce n'est pas sur le mode de la quantité, mais alors il le dit clairement. Hein, comment, hein? Donc, il y a toutes les dimensions du Christ qui sont là, mais bien entendu, et qui sont là, donc, sous la forme de la substance. Même les os, hein, même les muscles, hein, ben, on ne le voit pas. Hein. C'est tout simplement bon, tel que c'est donné là. Hein. Et à ce moment-là, ben, vous l'avez autrement dit, c'est vraiment lui que l'on reçoit, voyez-vous, in veritate, en vérité, mais sous un mode différent. Alors, la grande, il me reste 3 minutes, et je reste là, parce que la grande affaire, tout ça. Hein. D'ailleurs, Thomas le dit lui-même. Ben, c'est qu'est-ce qu'il advient des accidents, c'est-à-dire du pain et du vin. Vous voyez bien, le pain et le vin, eh bien, ont été convertis comme tels dans le corps et le sang du Christ. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Il n'y a plus là que, je dirais, bon, un accident habituellement est tout de même rattaché à quelque chose. Hein? Il a un substrat, il a un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, c'était le pain. Il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui fait? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, tiens, et en même temps, ces accidents, ils ne nous trompent pas, ce n'est pas seulement des apparences. Hein? Quand vous, si vous buvez, hein, à la coupe de vin, ben vraiment, vous allez goûter, ça goûte le vin. Hein? Ça n'a pas changé. Hein? Le pain, ben, ça goûte du pain, ça nourrit. Autrement dit, il n'y a pas de tromperie à ce niveau-là. Hein? Et pourtant, eh bien, ce n'est plus, alors, autrement dit, c'est sans, c'est suspendu. Imaginairement, on dirait ça, c'est suspendu en l'air, et c'est là, en tout cas, retenons ça au moins pour saint Thomas, c'est là qu'est le miracle eucharistique. Ça s'explique pas. Et donc, ça ne peut être possible parce que, eh bien, il y a un acte de puissance, le Dieu, qui peut agir sur sa création. De la même façon, eh bien, qui peut justement la laisser, se développer selon ses propres lois. Mais on voit, on est, alors on va dire que c'est un scandale, hein, ontologique, tout simplement. Oui, il faut le reconnaître. Hein. Mais on voit que c'est à ce moment-là, eh bien, c'est là qu'est le miracle, c'est que, eh bien, c'est les apparents sont pas les apparents, c'est réel. Et pourtant, eh bien, ça n'a pas l'appui que ça devrait avoir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Un sujet, une substance n'est plus là. Et ça ne peut être que par un acte de puissance de Dieu lui-même. Restons-en là. Vous voyez bien, enfin, disons, la fois prochaine, on verra avec. Bon, pas exactement. Après ça, on verra comment est-ce que tout de même, au niveau moderne, parce qu'on essaie de repenser la chose, mais l'avantage, je dirais, c'est qu'on retrouve Rabelais, réaliste, par ailleurs, eh bien, on passe par-dessus tout un imaginaire, hein, dont on ne peut pas toujours se passer. Hein, je vous disais, mon enfance, il y a des fois, malgré tout, c'est passé par là, le réalisme eucharistique, il faut bien le reconnaître. Hein. Bien que ça ne va rester uniquement là. Mais en reste, voilà. J'ai quelques feuilles, je crois que c'est une personne ou l'autre qui m'a dit la fois dernière. Ah, c'est vous, ça. Donc, la fois prochaine, on voit la réforme, Luther, Calvin et un peu les modernes.